Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes en direct et en public au Salon Livre Paris qui se tient jusqu'à lundi à la porte de Versailles. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'Alstom ou de Jérôme Kerviel, mais d'Orstam, de Jérôme K et de Dantès, leurs alter-ego fictionnels. L'économie a souvent la réputation d'être une discipline aride, difficile d'accès, réservée à une poignée de spécialistes. Et pourtant, plus que jamais, le monde de l'économie nous offre une matière littéraire foisonnante, des héros et des histoires qui nous permettent d'appréhender la complexité croissante du monde dans lequel nous vivons. Dès le 19e siècle, Émile Zola nous faisait entrer dans l'univers de la bourse et décrivait avec force détail la passion dévorante pour l'argent, titre de son roman. Alors comment la fiction s'empare-t-elle aujourd'hui des grandes affaires qui ébranlent l'univers de la finance et des multinationales? Que peuvent nous apporter la bande dessinée et le roman policier? Et 10 ans après la crise financière, alors que les inégalités continuent de se creuser, comment parler de l'économie autrement? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui en compagnie de 4 héros de l'économie. Bonjour Dominique Manotti. Vous êtes une grande figure du roman noir. Parmi vos nombreux récits, on peut citer Nos fantastiques années fric, L'honorable société et enfin Trafic, votre dernier roman sur lequel on va bien sûr revenir. Vous êtes également historienne, spécialiste de l'histoire économique du 19e siècle. À vos côtés, Christian Chavagneux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et éditorialiste au mensuel Alternative économique et auteur des Aventuriers de la finance perdue, Le procès de la finance internationale, réalisé avec le dessinateur James, une bande dessinée parue chez Casterman. Autre BDiste autour de la table, Philippe Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ancien journaliste économique, membre des économistes atterrés, et vous êtes l'auteur de 2 séries de bandes dessinées sur l'économie, Dantès et la banque, paru chez Dargo. Et enfin, Jézabel Coupé-Soubéran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, maître de conférences à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et autrice avec Marianne Rubinstein de L'économie pour toutes, un livre pour les femmes que les hommes feraient bien de lire aussi, paru à La Découverte, et de Parlons Banque en 30 questions, publié à la Documentation française. Un immense merci à tous les 4 d'être avec nous aujourd'hui. Et ce sont les mots de Zola qui vont ouvrir cette émission. Cédric Fuentes, de l'équipe d'Entendez-vous l'écho, va nous lire un extrait de L'argent.
Saccard rêvait une fois de plus de la royauté de l'or dans ce quartier de toutes les fièvres où la bourse d'une heure à trois bat comme un cœur énorme. Depuis sa déconfiture, il n'avait point osé rentrer à la bourse. Et ce jour-là encore, un sentiment de vanité souffrante, la certitude d'y être accueilli en vaincu, l'empêchait de monter les marches. Comme les amants chassés de l'alcôve d'une maîtresse, qui désirent davantage même en croyant l'exécrer, il revenait fatalement là. Il faisait le tour de la colonnade sous des prétextes, traversant le jardin, marchant d'un pas de promeneur à l'ombre des marronniers. Dans cette sorte de square poussiéreux, sans gazon ni fleurs, où grouillaient sur les bancs parmi les urinoirs et les kiosques à journaux, un mélange de spéculateurs louches et de femmes du quartier en cheveux allaitant des poupons, il affectait une flânerie désintéressée, levait les yeux, guettait. Avec la furieuse pensée qu'il faisait le siège du monument, qu'il l'enserrait d'un cercle étroit pour y rentrer un jour en triomphateur.
Voilà un extrait des toutes premières pages de L'Argent, publié en 1891, qui met en scène Aristide Saccard, anciennement Rougon, cherchant à faire fortune à la bourse après une série de mauvaises affaires. C'est l'un des premiers grands romans à dépeindre les dérives de la finance, Christian Chavagneux.
Oui, c'est vrai. Alors, on pourrait remonter à l'Antiquité. Il y a la dernière presse d'Aristophane Plutos parlait déjà de ça. Mais L'Argent de Zola, c'est le roman de la folie spéculative de l'argent. Il y a le rôle de la psychologie des acteurs qui sont confrontés aux rumeurs sur les marchés. Il y a le rôle des fraudes. Il y a les mauvais conseils d'administration. Lehman Brothers, il faut se rappeler que dans le conseil d'administration de Lehman Brothers, la banque américaine qui a fait faillite, qui a démarré la crise des subprimes, qui a bien développé la crise des subprimes, il y avait un directeur de théâtre, un amiral en retraite. Là, Zola nous dit, il y a vraiment des gens qui sont pas du tout compétents dans les conseils d'administration. Et surtout, Zola, il a perçu le côté psychologique, l'entraînement, l'enchaînement des périodes, des cycles de développement de la finance, de bulles, et puis le fait qu'après on essaie de la réguler. Si je peux lire 3 lignes moi aussi à mon tour de Zola, c'était l'épidémie fatale, périodique, dont les ravages balaient le marché tous les 10 à 15 ans, les vendredis noirs, à l'époque on disait les vendredis, après la crise de 29 ce sera les jeudis noirs, dont les vendredis noirs, ainsi qu'on les nomme, sèment les décombres. Il faut des années pour que la confiance renaisse, pour que les grandes maisons de banque se reconstruisent, jusqu'au jour où la passion du jeu ravivée peu à peu, flambant et recommençant l'aventure, amène une nouvelle crise et fondre tout dans un nouveau désastre. C'est Zola, je pense que les économistes ne peuvent pas écrire mieux.
Zola est une inspiration importante pour vous aussi, Christian Chavagneux, mais aussi Philippe Guillaume, mais aussi Alexandre Dumas.
Alors, les écrivains naturalistes du 19e sont mes livres de chevet, je dirais. Donc effectivement, tant dans Dantès est une transposition dans l'univers de la finance contemporaine du Comte de Monte Cristo. Évidemment, on a essayé avec Pierre Boisserie, qui a travaillé avec moi sur ce scénario, de dépeindre la chute d'un trader qui revient se venger. Et donc tout le monde reconnaîtra, d'ailleurs c'est une référence appuyée puisqu'on a appelé la série Dantès. Mais Zola aussi est très important pour moi, et d'ailleurs dans La Banque vous avez une référence directe à l'argent, puisque comme les femmes ne pouvaient pas rentrer à la bourse à l'époque, j'ai situé une petite scène chez Champeau, qui est le restaurant dans lequel rentre le banquier Saccard au tout début du roman.
Dominique Manotti, sur l'inspiration que Zola a pu constituer pour vous.
Oui, mais même plus largement que Zola, par exemple, je pense à la pièce de théâtre de Balzac, Le Faiseur, qui est absolument magnifique et qui est un peu antérieure, première moitié du 19e, et qui est déjà fabuleuse sur la spéculation. En plus, Balzac était toujours à demi-ruiné. Grâce à cela, nous avons une magnifique comédie humaine, puisqu'il était payé à la ligne, il fallait qu'il écrive. Bon, mais oui, moi je lis énormément, j'ai lu énormément la littérature du 19e, je suis une fanatique de la littérature du 19e, et c'est une grande tradition, oui, c'est une grande tradition.
Isabelle Coupé-Soubéran.
Christian disait tout à l'heure, les écrivains, en gros, donnent à comprendre l'économie bien plus que les économistes eux-mêmes. Il a complètement raison. D'autant plus que les économistes ne sont pas du tout incités à bien écrire. D'accord ? La forme, au fond, si vous voulez, chez les économistes, c'est presque quelque chose qui dessert. Parce que, soi-disant, ce qui importe, c'est le fond. Comme s'il y avait une scission entre le fond et la forme. Alors que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est ce qui donne accès au fond. Ouais, pour l'anecdote, je me souviens de la toute première conférence que j'avais donnée. C'était pendant ma thèse. Et je venais de terminer un de mes chapitres de thèse. Je le présentais. Et donc, je vais dans cette petite conférence qu'on appelle une sorte de workshop. Et puis, à la fin de ma présentation, il y a un monsieur, sans doute un professeur, qui avait assisté à la présentation. Il vient me voir. Et il me dit, bravo mademoiselle pour votre présentation, mais vous avez un gros problème. Alors, je le regarde un peu prise au dépourvu, et il me dit, on vous comprend trop bien, vous ne ferez pas carrière.
Vous n'aviez pas ce jargon.
Exactement. Voilà. Et sur le moment, je n'ai pas trop compris ce qu'il me disait. Je me disais que l'important, c'était de se faire comprendre, justement, en tant qu'économiste. Et par la suite, effectivement, dans ma carrière, j'ai compris à quel point est-ce qu'il valait mieux souvent s'abriter derrière le jargon, ce que je n'ai pas fait, justement, j'ai résisté à cela, parce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt de faire comprendre.
Dans le roman, on échappe au jargon, Dominique Manotti ?
Non, je crois que le jargon est tout à fait volontaire et systématique. C'est un mode de protection de la profession. Toutes les professions fonctionnent de la même façon. Les philosophes ont leur jargon, les économistes ont le leur, les statisticiens n'en parlent pas. Bon, je veux dire, là, il y a vraiment une conception du savoir. Et le savoir, quand on l'a, on le garde. Et surtout, on ne le communique pas au grand public. Donc je pense que c'est plus que... c'est vraiment un trait profond de la corporation.
Tout à fait d'accord. Il y a deux visions de l'économie, l'une qui se voudrait excluante et une autre qui se voudrait au contraire plus pédagogique. Christian Chavagneux.
Ah oui, moi je vais vous citer un petit roman, je pense que personne ne connaît, mais mes amis économistes, il s'appelle Koulahuri, qui est un livre qui a été publié en 1934 par Jacques Dubois, qui était un ancien banquier, député, sous-secrétaire au Trésor. Et en fait, Kou, c'est un jeune Chinois qui est venu faire ses études en France, qui est reparti en Chine et qui revient en 1934 et qui veut comprendre la crise. Et dans la visite de la France, il visite l'abbaye de Sainte-Économie. Et l'abbaye de Sainte-Économie, la première chose qu'il frappe, c'est que c'est complètement sombre, il n'y a aucune fenêtre, il y a juste des petites lucarnes en hauteur. Donc il demande au père qui lui fait visiter l'abbaye, mais pourquoi dans l'abbaye de Sainte-Économie, il n'y a jamais de lumière ? Il dit, Surtout, il ne faut pas que les gens se préoccupent de ce qui se passe à l'extérieur. Des fois qu'ils comprennent la réalité, ils sont juste là pour faire juste des théories. Et quand vous promenez dans l'abbaye, il y a des bustes de Saint-Jean-Baptiste partout. Saint-Jean-Baptiste sait, grand économiste libéral du moment. Ça résume bien chez Jacques Dubois ce que sont malheureusement devenus les économistes aujourd'hui. Et je partage complètement l'avis de Jézabel Coupé-Souberan, des gens qui sont un peu enfermés dans leur jargon. Et il faut le dire, Jézabel Coupé n'est pas reconnue à son travail parce qu'on comprend ce qu'elle écrit.
Philippe Guillaume, est-ce que justement il n'y a pas en même temps un désir important de plus en plus des citoyens de comprendre l'économie, et c'est à ce désir aussi que vous avez voulu répondre à travers vos bandes dessinées ?
Absolument, justement au travers de la bande dessinée, on a voulu démontrer que l'économie c'était pas si compliqué que ça, qu'il n'avait pas besoin d'en connaître tous les mécanismes les plus profonds pour comprendre ce qui se passait. Et donc on peut, un lecteur qui par exemple ouvre Dantès n'a pas besoin de comprendre spécifiquement l'échange des contrats à terme, mais le lecteur qui lui est un professionnel comprendra que c'est parfaitement de quoi on parle. Mais en même temps c'est très ouvert de façon à ce que le public puisse rentrer dans cette matière qui peut lui apparaître difficile. On a d'ailleurs mis dans Dantès un petit lexique et dans la banque des cahiers éditoriaux qui recontextualisent les opérations.
Dantès qui est le double fictionnel du trader Nick Leeson qui a coulé l'une des banques les plus prestigieuses du Royaume-Uni à la Barings. Alors justement, qu'est-ce que ces personnages de traders, on parlera ensuite évidemment de Jérôme Kerviel, également de Bernard Madoff dans un autre style, qu'est-ce que ces personnages permettent en termes de littérature justement?
Ces personnages sont tellement emblématiques que c'est des personnages finalement la fiction est dans la réalité, ce sont des personnages qui sont des héros de fiction mais ils sont dans la réalité et d'ailleurs Dantès est sorti à peine 6 mois avant l'affaire Kerviel on a été en fait rattrapé par la réalité parce que j'aurais jamais osé mettre une somme de 5,9 milliards dans Dantès, c'était beaucoup moins.
Christian Javagneux, vous ne faites pas le procès de Joseph K, mais de Jérôme K.
Jérôme K, il faut dire quand même que moi, je suis journaliste alternative économique, notre objectif c'est de faire de la pédagogie économique. Moi, Dantès, la banque, si vous ne comprenez rien à l'économie, mais jetez-vous sur les BD, je suis sûr qu'on les trouve là. C'est remarquable de précision et c'est réussir à nous expliquer des choses complètes. La finance, c'est la partie la plus complexe de l'économie. On arrive à comprendre la finance en lisant Dantès, en lisant la banque, les 6 volumes de la banque. C'est remarquable d'arriver comme ça à mêler fiction et explication économique, surtout explication financière, en ressortant plus intelligent. Et en plus, on est passionné parce que c'est une véritable histoire. C'est un roman, même si c'est une bande dessinée. On suit l'histoire, génération à génération, dans la banque. L'histoire de la vengeance, évidemment, Monte Cristo, on est complètement happé, même si les quelques petits derniers volumes, une fois que la vengeance est terminée, c'est un petit peu moins intéressant. Peut-être qu'ils ont un peu tiré à la ligne, mais bon, à part ça, c'est vraiment passionnant. Donc nous, oui, ce qu'on a fait avec James, c'est le procès de Jérôme K. Pourquoi ? Parce que un procès, c'est juste une technique de mise en scène. Quand il y a un procès, il y a un juge, donc c'est un peu le grand public, et puis il y a des avocats. Alors on a fait intervenir la représentante des grandes banques de la France, on a un grand banquier, des ONG qui vont essayer de dire que la finance, elle ne fonctionne pas toujours en faveur du fonctionnement de l'économie.
Oui, car c'est le procès de la finance en général.
La finance en général, et du coup on essaie d'expliquer ce que c'est que des marchés à terme, des produits dérivés, une banque centrale. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de bien contrôler les banques, être sûr qu'elles ne prennent pas trop de risques? Et là j'avoue que j'ai été servi par James, qui est un dessinateur fabuleux, qui connaît rien à l'économie, qui connaît rien à la finance, et quand j'envoyais mes textes, il revenait avec des illustrations drôlissime, mais non seulement c'était drôle parce qu'il est drôle, mais en plus c'était drôle dans le sens de ce que j'avais essayé d'expliquer. Vraiment, travailler avec un dessinateur comme ça, c'est génial.
Dominique Manotti, vous êtes d'accord avec cela, des figures comme Jérôme Kerviel ou Bernard Madoff, l'auteur d'une des plus grandes escroqueries de l'histoire américaine, qui a inspiré votre roman, Le rêve de Madoff? Ce sont de bons personnages de roman?
Ah oui, il y a des personnages magnifiques. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que mon expérience, je tourne beaucoup, je discute beaucoup avec les lecteurs, etc. Et quand même, il faut dire que quand on dit économie, les cerveaux se bloquent. Dans le public, c'est comme ça. Le travail des économistes pour faire incompréhensible a porté ses fruits, incontestablement. Donc on a beaucoup de travail devant nous. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Économie, ça bloque. Moi, je n'y comprendrai rien. Donc je ne le lis pas. Donc la première bagarre, C'est pour faire ouvrir le livre. Bon. Et après, on se casse un petit peu pour ce qu'on met dedans, mais le premier truc, c'est d'ouvrir le livre. Sinon, oui, bien sûr, on a des personnages absolument fabuleux. Mais c'est difficile, c'est quand même très difficile. Ces personnages-là sont difficiles à romancer. Ils sont difficiles à romancer parce qu'ils sont bouffés par l'amour du fric. Et l'amour du fric, faut quand même pas oublier Carlos Ghosn. Je veux dire, on est en plein, c'est presque du vaudeville. Voilà quelqu'un qui gagne, 14, 15, 20 millions, on sait plus. On a tellement de chiffres qu'on sait plus. Et qui truque ses comptes pour en mettre 74 de plus. Et par-dessus le marché, cher camarade, il ne dépense rien. C'est-à-dire que son jet privé est payé par la boîte, sa voiture est payée par la boîte, son chauffeur est payé par la boîte, ses villas sont payées par la boîte. Il ne dépense rien. Il accumule.
Ce sera l'objet de votre prochain roman.
Non. Mais c'est fascinant et en même temps piégeux. Parce que, d'abord, on est à des quantités de fric tellement énormes que le public ne suit pas. Ça n'a plus de sens. Et ensuite, il n'y a rien de plus. C'est comme l'amour du jeu. C'est comme les gens qui sont en situation de dépendance au jeu de hasard. L'amour de l'argent au niveau qui est atteint dans ces milieux-là, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à incarner. C'est une forme de passion délirante qu'il faut arriver à incarner. Donc il y a un gros travail quand même pour le romancier. Et Madoff, juste un mot, moi j'ai effectivement fait un petit truc sur Madoff. Ce qui m'a aidé avec Madoff, c'est que avant d'être ce spéculateur extrêmement intelligent, extrêmement fin, il a été le grand inventeur quand même de l'utilisation de l'ordinateur et d'Internet dans la bourse. C'est un homme qui a changé le fonctionnement de la finance. Donc en m'appuyant là-dessus, et c'est peut-être ça aussi qu'on lui a fait payer, hein, c'est un bouc émissaire, Madoff. Ça n'est absolument pas le responsable de la crise des subprimes. Il n'y a pas mis les pieds. Il savait dès le début que la crise des subprimes, ça se finirait mal. Donc il n'a pas du tout joué dedans. Mais Madoff a volé les riches. Bon, ça, c'est inadmissible aux États-Unis. Vous pouvez voler les pauvres. La crise des subprimes a mis à la rue 5 millions de personnes. Ça, c'est possible. Vous n'allez pas en prison pour autant.
On va faire réagir peut-être Christian Chavagneux.
Voler 30 000 riches, ça, c'est inacceptable. Donc, il est en prison jusqu'à la fin de ses jours.
Christian Chavagneux.
Oui, moi, mon prochain livre porte sur les grands escrocs de l'histoire. Donc, j'ai un grand chapitre sur Bernard Madoff. Alors, effectivement, il n'est pas dans les subprimes. Ce n'est pas un bouc émissaire, c'est un véritable escroc. Hein. D'après ce qu'on sait maintenant, rétrospectivement, toutes les enquêtes, il a quand même sûrement commencé à escroquer les gens dès les années 60.
Oui, oui,
c'est-à-dire qu'il a menti, il a volé.
C'est un escroc.
Mais là où vous avez tout à fait raison, ce qu'on ne lui pardonnera pas, c'est qu'il a volé les riches. Et après, quand on regarde, parce qu'on se rappelle Madoff, il est emprisonné, et puis on ne sait plus où est l'argent. Mais ça fait 10 ans que les gens essaient de récupérer l'argent. Et c'est une vraie bataille entre riches pour savoir qui va récupérer l'argent chez les riches. Et ça, de ce point de vue-là, c'est un personnage, moi, je trouve fabuleux. D'autant plus que sa maîtresse, du coup, a écrit un livre. Pendant que Bernard Madoff vous expliquait qu'il était un bon père de famille, moi, ça fait 10 ans que je couchais avec lui et je vais tout vous raconter maintenant parce que non seulement elle raconte tout sur le plan personnel, je vous passe les détails à l'intérieur du pantalon, bon, parce qu'elle va jusque-là, mais en plus, il l'a arnaqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il a eu besoin d'argent, il a volé l'argent de sa maîtresse,
qui était
une financière d'ONG. Incroyable.
Personne n'est épargné. Philippe Guillaume.
Génial.
Madoff est une très belle figure que j'utiliserai un de ces jours, certainement. Par exemple dans Dantès, évidemment c'est une fiction et toute ressemblance avec serait purement fortuite, mais en fait tous les personnages qui sont dedans sont soit des patchwork de personnages qui ont vraiment existé, soit directement des personnages qui existent dont j'ai transposé les dérives. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une permanence des dérives. Christian Chavagneux parlait des escrocs. Ben, dans la banque, j'ai réutilisé Madame Imbert, Thérèse Imbert, qui est une escroque Ah, absolument.
Alors, rappelez-nous qui c'est.
Ah ben, c'est une femme qui a fait croire pendant des années qu'elle avait un fabuleux héritage et qui s'est fait prêter de l'argent par toute la finance parisienne. Et quand on a ouvert le coffre au bout de X années, plus de 20 ans de procès, ben, on a trouvé un bouton de culotte, quasiment rien. Donc c'était absolument fabuleux. Ça se passe en fait sous la Troisième République.
Oui, dans les années 30.
Voilà. Avant la guerre de 14.
Les escrocs sont de bons personnages de romans, mais les économistes eux-mêmes peuvent l'être également. Et je pense en particulier à John Maynard Keynes, dont la vie mériterait sans doute un roman. Christian Chavagneux, il a lui-même eu une vie passionnante.
Ah, bah alors ça, oui, ça, si vous me lancez sur Keynes, oui, tout à fait. C'est d'abord un jeune haut fonctionnaire, l'élite traditionnelle britannique, homosexuelle, dans les collèges, c'est-à-dire l'université britannique. Il est d'abord haut fonctionnaire, puis il devient un peu. Il y participe au comité des réparations de la guerre de 14, c'est-à-dire à la fin de la guerre, comment est-ce qu'on va régler les problèmes d'argent entre la France et l'Allemagne. Il est tout à fait contre ce qui ressort de la guerre. L'Allemagne paiera, hein, on rappelle ce slogan. Il dit, vous faites trop payer l'Allemagne, ça va écrouler l'économie allemande et ils vont finir par se venger. Et il publie un bouquin juste après 1918-1919 dans lequel il nous dit, attention, l'Allemagne va se rebeller, ne pourra pas rembourser et ça va créer du ressentiment nationaliste, ils vont finir par nous refaire la guerre. Donc il écrit ça. Ensuite, il est, je dirais, grand journaliste, mais fondamentalement, pour faire le lien avec l'économie, avec l'émission d'aujourd'hui, il dit, vous savez, les économistes, ils ont moins de choses à nous dire que les artistes pour nous faire comprendre le monde. Il était trésorier de théâtre, directeur de théâtre, John Maynard Keynes.
Et c'est, beaucoup fréquenté Virginia Woolf.
Il a beaucoup fréquenté tout le club de Bloomsbury, comme on dit. Hein. Donc il y avait Lytton Strachey, il y avait Virginia Woolf, il y avait des peintres, il y avait des écrivains, etc. Et il a toujours dit, et moi je suis aussi keynésien pour ça, les artistes ont souvent plus de choses à nous dire pour nous aider à comprendre le monde que les économistes.
Isabelle Coupé-Soubéran, par rapport peut-être à certains économistes qui seraient des figures de romans eux aussi.
Figure de roman, je ne sais pas, mais en tout cas, clairement, Keynes fait partie des économistes très, très inspirants avec cette ouverture à l'art, au spectacle, à des modes d'expression qui peuvent être beaucoup plus affectants que simplement le fait de d'écrire un livre d'économie. Donc c'est ça qui le rend intéressant. Ce qui le rend aussi absolument inspirant, et il y en a d'autres dans le même cas, c'est aussi le type d'approche qui est livré par Keynes, donc une approche globale, une approche assez systémique et une approche guidée par la volonté finalement de guider le prince, d'orienter la politique économique. Ça, c'est un type d'approche assez intéressant en économie. Donc vous avez des figures comme Keynes, vous avez des figures comme Galbraith aussi, hein, qui était un petit peu sur ce mode-là. Minsky aussi, finalement, est une figure inspirante avec cette volonté d'appréhender le mécanisme économique, le système économique et le système financier, d'appréhender son fonctionnement, ses dysfonctionnements, sa dynamique cyclique, et ensuite, eh bien, d'orienter la politique économique pour que les choses se passent mieux. Cette approche normative, elle est parfois un peu décriée, si vous voulez, aujourd'hui parmi les économistes. Alors, vous avez encore des économistes aujourd'hui avec cette volonté de guider, d'appréhender le système, de le faire comprendre et de guider le décideur public. Vous avez des gens comme Paul Krugman, ou alors des économistes qui sont un peu à cheval en fait entre l'université et puis l'institution, comme Claudio Borio par exemple à la Banque des Règlements Internationaux, ou Andrew Haldane à la Banque d'Angleterre. Des gens qui ont cette vision systémique, qui ont à cœur de guider la décision publique.
Si je peux me permettre, ce sera un financier, un économiste qui sera au centre des nouveaux ouvrages que je prépare avec Pierre Boisserie. Ça sera le banquier d'Hitler, Almar Schacht, qui est un grand financier de l'entre-deux-guerres, qui a sorti l'Allemagne de l'hyperinflation, mais qui ensuite a permis le réarmement de l'Allemagne avant de terminer en camp de concentration et d'être jugé à Nuremberg. Enfin, mais c'est une figure absolument incroyable. Et là, voilà, c'est une figure réelle qui est un véritable personnage de fiction.
Christian Chavagneux.
La suite de ce que disait Jésabel, c'est marrant parce que c'est vrai que Paul Krugman essaye d'avoir une approche générale et il nous dit souvent qu'il est un grand lecteur de romans de science-fiction. Hein. C'est un grand lecteur de fiction en général. Marx, qui est vraiment l'économiste type et même au-delà de l'économie, qui avait une vision globale, on sait maintenant, il y a une étude formidable qui est sortie en Angleterre, Marx est un grand lecteur de la vie et les opinions de Tristram Shandy, qui est un bouquin de Laurent Stern, qui est un bouquin, je ne sais pas si vous connaissez, qui est complètement délirant. Il commence à raconter une histoire et puis il s'en va raconter un autre truc, il repart en arrière, il va en avant, il va à droite, il va à gauche. Et en fait, Marx, quand vous lisez Le Capital, c'est comme ça. C'est plein de digressions. Ça part à droite, à gauche. Et Marx lisait Laurent Stern. Et Marx dit, tout ce que j'écris sur le travail des enfants en Angleterre, ça vient de ce que j'ai lu de Charles Dickens. Il a lu Robinson Crusoe. Alors les économistes vont lire aussi Robinson Crusoe, mais on fera faire un personnage complètement inintéressant de l'homo economicus qui résonne tout le temps sur son île, tout seul sur son île. Marx, au contraire, va prendre la troisième partie de Robinson, pas les Lilliputiens, ce qu'il y a après, les relations avec les géants, les rapports de force. Et Marx est un grand lecteur de fiction et il devient un personnage qui appréhende le système économique. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jésabel Coupé.
Vous, Dominique Manotti, vous êtes inspiré directement de l'actualité dans un certain nombre de vos romans, et en particulier dans votre dernier roman, Racket, qui s'est inspiré du rachat de la branche énergie d'Alstom par General Electric en 2014. Alstom, qui avant son rachat avait été poursuivi par la justice américaine en vertu de l'extraterritorialité du droit américain, et certains y ont vu une manipulation des États-Unis pour s'emparer d'un fleuron stratégique de l'industrie française. Ce sont ces pratiques que vous vouliez donner à voir et à dénoncer dans votre roman ?
Oui, moi, si vous voulez, je suis historienne de formation, pas économiste. Et moi, ce que j'essaye de raconter, c'est pas les théories économiques, c'est même pas les économistes, c'est la façon dont ça fonctionne dans la vie des entreprises. Comment ça fonctionne ? Et le terme de racket est exactement le terme qui convient. C'est-à-dire que la vente d'une entreprise française à une entreprise américaine est un phénomène qui s'appuie sur un ensemble de menaces, de pressions, de meurtres, d'escroqueries, d'infiltrations, d'espionnage. Toute une série de moyens qui sont des moyens extrêmement classiques dans la vie économique.
Et autant de rebondissements pour votre roman.
Et qui fonctionne de fait. Et je les raconte. Je les raconte en essayant d'être au plus près de ce qui s'est vraiment passé. Je fais beaucoup de documentation avant d'écrire mes livres. Et donc je m'appuie sur des... Je vous donne simplement quelques points de repère. Par exemple, General Electric qui a racheté Alstom, c'était la cinquième entreprise que General Electric rachetait sur une procédure judiciaire américaine. Bon, donc c'est un système, ce n'est pas du tout le hasard, c'est un système. Et quand le procureur commence à mettre en cause Alstom, il a sur sa table 1,5 million de mails privés de l'intranet d'Alstom qui ont été détournés par la NSA et qui ont été donnés à la justice américaine. Donc il n'a plus qu'à fouiller dans la littérature interne d'Alstom pour trouver des points d'appui et pour trouver des raisons de traîner devant la justice Alstom. Tout ça est une mécanique bien huilée qui marche absolument régulièrement. Et moi, ce que j'essaye de décrire dans mes romans, c'est ça. Avec, pour moi, l'interrogation incroyable... Enfin, le truc qui m'a beaucoup surprise quand j'ai commencé à travailler, à romancer ces milieux, si vous voulez, c'est l'absolu sentiment d'impunité. Moi, je passe dans le métro sans poinçonner mon billet. Je suis inquiète pendant tout mon voyage. Bon. Une entreprise qui vole 1,5 million de mails ne se pose aucun problème. Et les patrons considèrent qu'ils sont au-dessus. Au-dessus. Ils ne vivent pas dans le monde régi par la légalité. La loi... C'est une limite qu'ils connaissent et qu'ils franchissent lorsque le profit qu'ils vont en retirer est supérieur au risque. Donc la question de la légalité dans la gestion des entreprises se résume à un calcul du risque. Et ça, c'est quand même, quand on arrive dans cet univers, c'est quand même extrêmement surprenant pour le citoyen moyen.
Christian Chavagneux.
vous avez entendu le scoop, hein, Dominique Manotti triche dans le métro. Hein, donc il faut faire attention. Non, ce qui est fabuleux, c'est que après que Dominique Manotti est sorti raquette, il y a une commission d'enquête parlementaire sur ce rachat d'Alstom par General Electric. Je vous mets au défi, en lisant le compte-rendu, le rapport de la commission d'enquête et en prenant des phrases du roman de Dominique Manotti, de savoir qui vient de quoi. Son roman, il est absolument mais fabuleux. D'ailleurs, ils auraient pu se passer de faire complètement la commission d'enquête. Tout était déjà dans le bouquin de Dominique Manotti. C'est la façon, moi, c'est ça qui me fascine, à la fois chez Dantès et la banque, à la fois chez Dominique Manotti, cette capacité qu'ont ces gens qui sont spécialistes de raconter des fictions, d'arriver, parce que on est complètement pris, non seulement par le rachat d'Alstom par General Electric, mais il y a une jeune enquêtrice, il y a une petite fliquesse, on la suit. C'est une vraie fiction, en même temps, on n'est pas du tout dans un livre d'économie, hein, faut bien le dire. Et cette capacité qu'ont ces gens à mêler la fiction, la dynamique dramatique, et en même temps nous expliquer l'économie, moi, me fascine, je dois le dire.
Un mot, Philippe Guillaume, sur cette question de l'extraterritorialité du droit américain et plus largement sur comment on s'empare de ce genre d'affaires en fiction.
Bah, c'est des affaires qui sont à chaque fois très inspirantes parce que c'est des affaires hors normes, hein, à chaque fois. Et effectivement, comme le disait Dominique, le fait que ces financiers se mettent hors la loi, en fait, en permanence, est totalement fascinant et peut raconter des histoires qui sont passionnantes, en fait. C'est très passionnant de rentrer dans le détail. L'affaire Kerviel, c'est absolument extraordinaire. Alors, je l'avais un peu précédé parce que, effectivement, c'était plutôt inspiré de Nick Leeson. Mais on avait ramené l'affaire en France sur... Les produits dérivés, donc il y a des connotations, mais voilà, on se rend bien compte que Kerviel, il n'aurait jamais pu le faire s'il n'avait pas eu l'autorisation, ou en tout cas, après il y a eu des jugements là-dessus, mais en tout cas, les yeux se sont fermés sur ce qu'il faisait quand même, largement sans doute.
I didn't know what to do or where to go, and somehow my feet started walking down the street, across the bridge, past the Metropole Cinema, and do you know where?
No, where?
Right into the library.
The library?
Can you imagine?
Well, how did you like it?
Oh, you've never seen such a place. So many books. So much marble. And so quiet. And suddenly, all of my confidence dribbled away with a pitiful plop. My head was beginning to swim, and my forehead was covered with cold perspiration. I started to reach for a book, and my hand automatically came to a stop. I don't know how long I stood frozen, a victim of panic and mortification. Oh, how I wanted to flee, when a kindly voice, a gentle voice whispered, pardon me.
Pardon me.
Uh-huh. And there was this dear, sweet, clearly respectable, thickly bespectacled man who stood by my side and quietly said to me, ma'am, don't mean to intrude, but I was just wondering, are you in need of some help? I said no. Yes, I am. The next thing I know, I'm sipping hot chocolate and telling my troubles to Paul, whose tender brown eyes kept sending compassionate looks. A trip to the library has made a new girl of me, for suddenly I can see the magic of books. I have to admit, in the back of my mind, I was praying he wouldn't get fresh.
La magie des livres, voilà ce que chante Jane Krakowski dans She Loves Me, une comédie musicale composée par Jerry Bock. Dominique Manotti, Jésabelle Coupé-Soubéran, Christian Chavagneux et Philippe Guillaume sont toujours avec nous en direct et en public au Salon Livre Paris. De la BD au roman, l'économie autrement, c'est notre sujet aujourd'hui. Alors on va continuer à parler des façons de vulgariser des grandes théories économiques. Jésabelle Coupé-Soubéran, pourquoi avoir écrit un essai de vulgarisation économique qui était spécialement adressé aux femmes?
Alors, bah, tout à l'heure, Dominique Manotti nous disait, quand on dit économie, les cerveaux se bloquent. Bah, il s'avère que quand on dit économie, tous les cerveaux se bloquent, mais surtout ceux des femmes. Pourquoi ? Parce qu'au fond, l'économie, en tant que secteur d'activité, mais également en tant que domaine de réflexion, en tant que discipline, c'est largement dominé par les hommes. D'accord ? Et donc, c'est un domaine d'hommes, très masculin, avec des valeurs d'hommes, avec un langage d'hommes, qui ne s'adresse pas aux femmes. Les femmes y sont sous-représentées. Et lorsque vous consultez les résultats des enquêtes qui sondent la culture économique et financière, les résultats sont mauvais, en moyenne, pour tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais les résultats des femmes sont encore moins bons. Alors on s'est dit, bon, il faut justement essayer de communiquer l'économie autrement, de parler d'économie autrement, et pardon un petit peu si vous voulez du raccourci, mais au fond, le simple fait d'être une femme, d'écrire l'économie en tant que femme, pour s'adresser aux femmes, c'est déjà le faire autrement, parce que, en règle générale, eh bien, l'économie n'est pas pensée par des femmes. Les femmes y sont sous-représentées, encore une fois, et ça ne s'adresse pas spécifiquement aux femmes. Donc, ce qu'on a voulu, parce que c'est très juste ce qui a été dit tout à l'heure, que font les économistes généralement ? Ils s'abritent derrière leur jargon, ils élèvent très haut les murs de la citadelle. Ben, nous, on a voulu faire le contraire. On a voulu ouvrir la porte, baisser les murs de la citadelle et dire, eh bien, venez voir, on peut vous expliquer les choses avec justement une petite touche de féminin, un peu plus de légèreté, un petit peu plus de bulles, sans du tout abandonner la rigueur, mais on va vous communiquer les choses différemment.
Et voilà. Ça passe aussi par le fait de passer du particulier au général pour mettre en évidence, c'est ce que vous faites dans votre livre, les liens entre les difficultés économiques quotidiennes que chacun peut vivre, chacune, et les grandes dynamiques économiques qui les sous-tendent.
Oui, en fait, la difficulté, souvent, c'est d'incarner le propos. Et donc, cette incarnation, on a essayé de la réaliser en se disant, essayons de trouver un chemin. On va cheminer avec la lectrice, avec le lecteur aussi, hein, parce que les hommes sont autorisés à le lire, cet ouvrage. Donc, on va cheminer
même,
en partant...
On conseille même.
En partant de, d'une préoccupation quotidienne. Est-ce que je dois louer ou acheter mon appartement ? Et donc, on met en situation une personne, de façon à ce que elle se confronte à ce problème économique. Est-ce que aujourd'hui je me sens citoyenne européenne ? D'accord ? Bon, bah, c'est une question aussi que chacun peut se poser. Ben voilà, on part, si vous voulez, d'une mise en situation comme ça, très micro, diraient les économistes. En tout cas, on confronte une personne à un problème qu'elle peut se poser au quotidien, et puis ensuite on déroule un peu la bobine au fur et à mesure, eh bien, on va cheminer vers des aspects plus macro, donc on va cheminer vers la compréhension des mécanismes. On part d'un questionnement sur est-ce qu'il vaut mieux que je loue ou que j'achète mon appartement, et puis on va en arriver aux bulles immobilières et à l'importance que ça a dans les dynamiques d'instabilité financière. Mais tout ça de manière extrêmement... extrêmement simple.
C'est aussi votre méthode, Philippe Guillaume ?
Les femmes, effectivement, l'économie a longtemps été une affaire gérée par les hommes, mais les femmes ne sont jamais très loin. Et d'ailleurs, dans la banque, elles jouent un rôle très important, très essentiel.
C'est justement ce décalage entre le monde
dans le récit, voilà, elles sont là, elles sont bien présentes. Bon, elles s'en sortent pas toujours très bien, mais à la fin, dans le tome 6, elles reprennent le pouvoir. Bon, elles le payent cher, mais elles reprennent le pouvoir.
C'est vrai que les femmes sont assez présentes dans le secteur bancaire, mais généralement, si vous voulez, avec un modèle très pyramidal. Donc elles sont très nombreuses dans le bas de la pyramide, puis au fur et à mesure que vous montez dans les postes à responsabilité, bon, vous me direz un peu comme partout ailleurs, mais c'est particulièrement vrai dans le secteur bancaire et financier. En haut, il y en a très peu.
Christian Jamagnu.
Dans le secteur économique et la profession des économistes, non seulement elles sont sous-représentées, mais maintenant, on a des études qui le montrent, elles sont discriminées. C'est-à-dire qu'une femme doit faire encore plus d'efforts pour montrer qu'elle est au niveau qu'un homme. Il y a des économistes qui ont publié, il y a 15 jours, une petite étude absolument fabuleuse en essayant de démontrer que les économistes ont des biais. D'accord ? Et donc, comment ils ont fait ? ils ont menti aux économistes. Ils leur ont donné une citation très traditionnelle, par exemple, « Il n'y a pas assez de femmes en économie, les femmes sont sous-représentées en économie. » Donc ils ont dit à la moitié des économistes, ce point de vue, il vient d'une économiste américaine bien en cours, très orthodoxe, Herman Reinhart, qui est très connue. Et puis après, ils ont dit, non, ils ont dit à l'autre moitié des économistes, ce point de vue, le fait que les femmes sont sous-représentées en économie, ils l'ont attribué à une économiste féministe britannique. Eh bien, du côté des hommes, quand c'était la dame bien en vue aux États-Unis, le taux d'approbation était assez large. Et quand c'était la féministe britannique, le taux d'approbation s'effondrait chez les hommes. Cette étude montre que les hommes sont 42% de plus biaisés que les femmes en économie. Donc on a vraiment besoin de plus de femmes en économie. Elles sont discriminées. Maintenant, le débat que j'ai avec Gisabelle depuis quelques années, c'est quand elle écrit... C'est une des rares économistes qui écrit clairement. C'est-à-dire vous êtes incompétent en économie, vous voulez comprendre quelque chose, prenez son livre, c'est absolument limpide. Est-ce qu'elle écrit comme une femme ou est-ce qu'elle écrit de manière pédagogique? Et est-ce que la pédagogie, alors à chaque fois, à chaque fois que je lui dis ça, elle me dit, mais si tu écris de manière pédagogique, c'est ton côté féminin. Bon, pourquoi pas? Je veux bien assumer mon côté féminin, mais est-ce qu'on écrit comme une femme quand on écrit clairement ou est-ce que tout simplement on écrit de manière pédagogique? Je crois qu'on écrit de manière pédagogique.
On va poser la question à Dominique Manotti. Est-ce que vous écrivez comme une romancière, comme une femme?
Non, absolument pas. Je ne crois pas à l'écriture féminine. je me suis confrontée à un éditeur qui me disait, moi, quand on me donne un manuscrit, je sens quand c'est une femme. Vous savez, Don Juan, l'odeur de femme, là. Bon, non, moi, j'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, dans mes premiers romans, comme les gens ne me connaissaient pas, ils n'avaient pas vu des photos, Dominique Manotti était systématiquement un homme. Donc là-dessus, je n'ai pas de souci. moi, ce que je voulais dire par rapport à vos interventions, c'est que moi, évidemment, je me situe à un autre niveau parce que je ne fais pas un discours économique ou d'économiste. Je raconte une histoire qui montre... Comment fonctionnent ces rouages? C'est un roman noir. C'est un roman qu'on lit pour le plaisir et pour... voilà. Et moi, une de mes découvertes quand même, je partais avec un petit peu une idée de ça, si vous voulez. C'est-à-dire le caractère criminel de l'économie, le caractère intrinsèquement criminel. C'est-à-dire pas par hasard un mauvais, non, c'est-à-dire la recherche du profit implique la prise de raccourci et la prise de risque, incontestablement. Bon, et ce que j'ai découvert, je suis partie de cette idée de départ dans mes recherches, et ce que je découvre en cours de route, c'est effectivement le fonctionnement de type mafieux, et le terme de racket fait évidemment allusion à la mafia. Et je voudrais quand même vous lire, c'est très très court, hein,
je vous en prie.
Je voudrais vous lire un papier que j'ai retrouvé là pour préparer l'émission, que j'avais pour faire mon bouquin. C'est une dépêche de l'AFP, elle vous a peut-être échappé, du samedi 24 mars 2018. Mathieu Müller, le patron de Volkswagen, touche un salaire de 10 millions d'euros pour 2017. Protestation des syndicats ouvriers... le salaire est trop élevé. Alors, Mathieu Müller se justifie. Et là, la dépêche de l'AFP cite ce qu'il dit. Il dit « Le salaire élevé couvre les risques permanents que je cours d'aller en prison. » Le patron de Volkswagen. « Au titre de nos responsabilités, nous avons en permanence un pied en prison. » Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que longtemps, ils ont justifié leur salaire en se comparant aux footballeurs. Bon, maintenant, ils ont compris qu'ils ont perdu la partie. Les footballeurs sont beaucoup mieux payés que les grands patrons. Donc, ils ne se comparent plus aux footballeurs. Ça serait mauvais pour leur image. Maintenant, ils se comparent aux chefs mafieux qui, effectivement, font des provisions pour les frais de prison. Alors, je suggérerais d'envoyer un mot en lui disant « N'oubliez pas les provisions pour les familles de détenus. »
Isabelle Coupé-Soubéran.
Oui, mais non, juste peut-être revenir sur l'écriture féminine. Sincèrement, moi non plus, je ne suis pas sûre de croire en l'écriture féminine. Mais ce qu'on voulait faire, c'était écrire autrement. Et ce que je dis, c'est juste que quand on prend la plume en étant une femme économiste, et qu'on est une femme économiste, sans avoir voulu se conformer aux codes, aux conventions, aux normes qui sont très écrasantes dans cette discipline, forcément, on communique l'économie autrement, forcément, on l'écrit autrement. En fait, si vous voulez, là, le fait de mettre l'économie au féminin, c'était nécessairement créer une altérité, quelque chose de différent, quelque chose d'autre, parce que le féminin n'est pas beaucoup dans l'économie en tant que discipline. En tout cas, il est sous-représenté encore, même si ça progresse un peu. Il y a quand même une sous-représentation encore parmi les femmes économistes. D'ailleurs, j'imagine que vous y êtes confrontés, vous, Tiffaine, au quotidien. Lorsque vous invitez des économistes, vous avez sans doute beaucoup plus de difficultés à faire venir des femmes que des hommes.
Christian Chavagneux, vous parliez tout à l'heure de cet humour qui était présent et peut-être nécessaire dans votre bande dessinée. Est-ce que l'humour, c'est un trait essentiel aussi pour rendre accessible un certain nombre de théories économiques un peu arides ?
Bah, c'est sûr qu'il ne faut pas compter sur les économistes pour faire de l'humour. Hein. Donc, s'il vaut mieux demander à quelqu'un d'autre de le faire.
Dans l'économie pour toutes, il y a un peu d'humour.
Dans l'économie pour toutes, mais oui, mais Jésabel Coupé-Souberin est à côté des économistes traditionnels. Il y a de l'humour, c'est clair. Voilà, ce n'est pas du tout un travail d'économiste habituel. Oui, bien sûr, l'humour, c'est comme la fiction, c'est comme le cinéma, c'est la bande dessinée. Après, c'est un des ressorts dramatiques qui est d'autant plus facile à faire avec les financiers que voilà, on a l'image du banquier, du financier, c'est pas pour rien que mon collègue à côté fait la banque, quoi. C'est des personnages, ils sont dramatiques en eux-mêmes déjà. La finance, c'est déjà quelque chose, l'argent qui nous fascine, donc se moquer d'eux avec un dessinateur qui a en plus beaucoup de talent, c'est évidemment très facile. Et franchement, oui, c'est aussi une technique, c'est un truc, ça permet de rentrer plus facilement dans de la technique financière, parce que pendant qu'ils sont en train, les lecteurs, de rigoler avec les petites blagues de James, au-dessus, bah, ils sont obligés de lire les 3-4 lignes que j'ai mises et ils comprennent comment fonctionnent les produits dérivés.
Oui, ce sont des récits en prise avec la réalité, donc il y a des moments dramatiques, il y a des moments humoristiques. Pour faire un bon récit, il faut que ça soit un mélange un peu de tout ça, qu'il y ait une belle intrigue, mais il faut qu'il y ait des moments de respiration. Ça ne peut pas toujours être foncièrement noir. Donc il y a aussi des moments dans la banque ou dans Thèse, il y a des moments humoristiques, rigolos, voilà, qui permettent de détendre un peu l'atmosphère, parce que c'est des sujets quand même parfois un peu lourds, hein, les escroqueries et tout, c'est parfois un peu noir, un peu lourd.
Et justement, dans votre série sur la banque, Philippe Guillaume, vous choisissez de la faire commencer en 1815. Alors pourquoi ce choix, alors que vous précisez par ailleurs, à la fin du premier tome, que la banque a été créée par les Italiens dès le XIIe siècle ?
Absolument, oui. Alors d'abord, parce qu'on ne voulait pas faire une série qui soit trop longue, parce que je pense que l'éditeur, si on lui avait annoncé... L'idée, c'était de faire quand même 2 tomes par génération de la famille, de suivre une famille. Donc si on lui avait annoncé 30 tomes, je ne pense pas qu'il aurait... On aurait pu remonter jusqu'aux Assyriens, mais bon, c'était un peu loin. Pourquoi le choix de 1815 ? Parce que c'est le début de l'ère moderne, parce que c'est Waterloo, parce que c'est le coup financier un peu mythique des Rothschild. Alors là, on a choisi en plus les pigeons voyageurs, parce que c'était le plus graphiquement intéressant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a retenu cette date de départ de 1815. Et puis les deux personnages, le frère et la sœur, qui sont des enfants d'immigrés de la Révolution française, nous paraissaient être des personnages forts. Enfin, c'était bien de les situer à Londres. Enfin, c'était la raison du choix de cette date.
Rendre accessible en bande dessinée des sujets économiques compliqués, c'est le défi que s'étaient lancés Dan Burr et Michael Goodwin avec Economics, qui se présentait comme la première histoire de l'économie en BD. Ça a été un vrai phénomène d'édition, Christian Chavagneux, et en même temps, il manque peut-être son équivalent français, une histoire de l'économie française en BD.
J'ai vraiment été surpris par le succès d'Economics, parce que oui, c'est une bande dessinée, mais en fait, c'est un petit personnage qui vous raconte des trucs qui sont longs comme ça. Il y a beaucoup à lire, c'est très dense, c'est très américain. Et j'avoue que j'ai du mal un petit peu à m'expliquer les normes. Alors c'est vrai que c'est pédago en même temps, mais faut s'intéresser à l'économie américaine, faut s'intéresser à l'histoire de l'économie américaine. Et puis ce qui est intéressant, c'est d'avoir une présentation très synthétique et très pédagogique des théories économiques, mais il faut quand même se taper des fois, hein, on a une toute petite tête en bas, et puis tout un texte qui est long comme ça sur toute la page. Je crois qu'aujourd'hui quand même, quand vous regardez ce que fait Futuropolis, regardez ce que même la fiction, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui permettent, beaucoup de bandes dessinées aujourd'hui qui permettent de parler d'économie de manière plutôt clair et plutôt pédagogique et qui permettent surtout de toucher le plus grand nombre de personnes, parce qu'il y a vraiment une chose qui a, s'il y a un message qui ressort depuis le début de cette table ronde et cette émission, c'est de dire que surtout ne laissez pas l'économie aux économistes.
Ouais. Toucher un plus large public et notamment les adolescents. Vous êtes lancé, Jésabelle Coupé-Soubéran, dans une bande dessinée à destination de la jeunesse. C'est important aussi de toucher ce public.
C'est en cours, hein. Donc là je suis en train de trimer, moi je suis vraiment une apprentie là pour le coup en la matière. Et je pense que oui, c'est important de toucher un public jeune, de toucher finalement les personnes qui ont l'énergie de la transformation. Et donc de donner à comprendre à ces jeunes pour précisément qu'ils soient encore plus débordants d'énergie. De transformation. Moi, j'ai été très étonnée quand on a fait l'économie pour toutes avec Marianne, parce que au fond, on l'avait fait un peu pour nos bonnes copines et on se disait ça plaira à nos bonnes amies. Alors, ça a plu à certaines d'entre elles, mais en fait, ça a surtout plu à la jeunesse. Et c'est un livre qui a été récompensé par les jeunes, par des jeunes lycéens. Et ça me parle en fait, que ça parle. Que ce soit qui est comme ça, si vous voulez, cette ouverture de la jeunesse à des connaissances mises à disposition d'une manière accessible, pédagogique. Donc c'est ce que j'essaie de faire là maintenant dans un exercice d'écriture qui pour moi est encore vraiment beaucoup plus difficile avec une BD jeunesse. Et je vais m'empresser après de discuter avec Philippe pour qu'il me donne un petit peu des conseils, ces trucs, parce que s'adresser aux plus jeunes, en essayant non pas justement d'accumuler des scénettes comme dans Economics, mais plutôt en essayant d'avoir des personnages auxquels on s'attache, de filer un peu un récit, c'est pas facile.
Est-ce que vous avez le sentiment, Christian Chavagneux, que les scénarios qui touchent aux questions économiques se sont multipliés ces dernières années ? Parce qu'on a parlé de la bande dessinée, du roman, mais le théâtre et le cinéma permettent aussi de faire découvrir l'économie autrement.
Le cinéma ces dernières années, la crise financière a beaucoup nourri le cinéma, parce que c'est normal, je le disais tout à l'heure, la finance, ça touche à l'argent, ça nous intéresse, et puis c'est très très dramatique. Mais j'avais regardé ça de manière historique, et en fait, vous trouvez des pièces de théâtre sur l'argent, sur les manipulations financières, sur la fraude, mais depuis, j'ai cité au début d'émission Aristophane, mais vous avez Jules Romain, vous avez la Folle de Chaillot de Jean Giraudoux, vous avez deux ou trois extraits qui sont absolument fabuleux, qui se moquent de la technicité des financiers, mais qui en même temps nous expliquent des choses. Et puis les vacances dernières, j'ai lu La Petite Dorrit de Charles Dickens. Et dedans, vous avez La Prison pour dettes, vous avez ce formidable personnage qui s'appelle Monsieur Merdel, qui est un personnage richissime, de financier génial. Et Dickens a bien compris que, en fait, hein, Merdel, c'est Madoff. Hein, c'est un fraudeur, c'est un escroc total. Et Dickens a bien compris. À un moment donné, on a une scène où Merdel dit: ah, vous voulez me confier votre argent, vous savez, vous serez réservé à des gens que je connais très bien. Madoff fonctionnait comme ça. C'est un véritable privilège de m'occuper de votre argent, un véritable privilège de vous voler votre argent, en fait. Et Merdel fonctionne comme ça, et Dickens l'a compris. C'est vraiment fabuleux, et ça date depuis des siècles et des siècles.
C'est à la faveur de la crise économique, Philippe Guillaume, qu'on a vu de plus en plus ces fictions émerger, même si on a compris avec Christian Chavagneux qu'il y en a depuis bien longtemps déjà.
Peut-être nous, on a lancé, avec Pierre Boissery, on a lancé la série Dantès en 2007, donc c'était juste avant la crise. C'est vrai que depuis, il y a eu pas mal de séries qui se sont lancées sur le sujet. Hein. Je pense par exemple à Hedge Fund, par exemple, qui est une très bonne série. Mais à chaque fois, on voit que souvent, les scénaristes de BD professionnels s'associent avec un spécialiste du sujet, parce que les hedge funds, c'est un sujet un peu compliqué. La série, je vous en recommande la lecture, et c'est une très bonne série, hein, également. Il n'y a pas que Dantès et la banque.
Pour vous, Dominique Malotti, qui avait longtemps milité avec la CFDT, est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'écriture constitue un nouvel engagement politique ? Ça a été un choix décisif pour vous mettre à écrire au milieu des années 90 ?
Non, le choix décisif pour me mettre à écrire du roman noir dans les années 90, c'était le désespoir. Le désespoir, constatant que tout ce qu'on avait tenté, rêvé dans les années 60 et 70, était un échec. Le désespoir de l'échec de ma génération. Et le roman noir, c'est une forme de littérature... du désespoir, oui, une forme. Et c'est sur cette espèce de désespoir qu'il faut arriver à reconstruire autre chose. Et c'est vrai que moi, j'écris, si vous voulez, pour comprendre les grands moments où ma génération a loupé le coche, les grands rendez-vous qu'on a manqués, qu'on n'a pas compris, qu'on a complètement mal interprété, sur lesquels on s'est égaré. Et ce qui me frappe un petit peu là dans la discussion entre tous les trois ou quatre, c'est l'absence de l'industrie. Vous êtes des financiers, alors ça vous aide pas à être concret entre nous. Ce qui est très, moi ce que j'essaye de faire, et ça c'est mon passé de syndicaliste, ce que j'essaye de faire quand je vois ces grandes histoires d'argent, que ce soit, bon, j'ai fait un truc sur la naissance du trading du pétrole, et là je fais quelque chose donc sur Alstom GE. Dans ces grandes histoires, il y a des gens à la base qui payent. Les gens qui payent, c'est ceux qui bossent dans ces boîtes ou pour ces boîtes, c'est les ouvriers, c'est les employés, c'est les cadres moyens, c'est tous ces gens-là. Alors j'essaye toujours de lier en fait la gestion au sommet à sa répercussion sur la base. Parce que tout ça n'est pas un jeu à somme nulle. Il y a des gens qui payent. Il y a toujours des gens qui payent. Et donc, le rôle du roman, c'est aussi de les montrer. C'est aussi de les faire vivre, ces gens qui payent. Voilà. Donc, quand on part uniquement de la finance, on a un peu tendance à les oublier. Parce que les frais que payent les gens pour les crises financières sont en cascade, ne sont pas immédiatement liés à la structure financière elle-même. C'est les cascades. Bon, voilà. Moi, j'essaye d'être dans l'humain, dans le sang.
On parle
dans la chair.
On parle d'engagement politique, Dominique Manotti, et à la fin de votre bande dessinée, Christian Chavagneux, le personnage du juge appelle les citoyens à se mobiliser face au lobby de la finance. La fiction, c'est aussi un moyen de faire passer justement ce message politique.
Bien sûr, la fiction, c'est un outil pédagogique, et la pédagogie, c'est un moyen de faire de la politique. Nous, pourquoi est-ce qu'on l'a fait alternative économique? Pourquoi est-ce qu'on essaie de faire de la pédagogie? C'est pas simplement pour expliquer l'économie, c'est que pour que l'économie soit comprise par le plus grand nombre de personnes. Regardez une campagne présidentielle, les trois quarts des débats, c'est des débats économiques. On peut pas laisser ça aux experts. Si on veut vraiment faire acte de citoyenneté aujourd'hui, il faut être capable de comprendre l'économie et tout ce qui permet de faire de la pédagogie économique, tout ce qui permet de redonner aux citoyens la possibilité de faire des choix et de pas simplement dire il y a une seule politique. C'est pour ça qu'on s'appelle alternative économique au pluriel. Et ben va dans le bon sens, c'est un combat politique.
On ne peut pas laisser l'économie aux experts, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les quatre, Dominique Manotti, Christian Chavagneux, Philippe Guillaume et Gisabelle Coupé-Soubéran, de nous avoir emmenés sur les sentiers de la fiction économique. Tous vos conseils littéraires seront à retrouver sur la page de notre émission sur notre site franceculture.fr.
You are not an open book, I can't do nothing about that. But I'm worried, I'm overdrawn, what am I doing up at the witching hour? Oh. 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 Pick up a book, put down a book, turn on the TV. It's 2 a.m, there's nothing on, I just need something to focus on. Oh.
Un grand merci également à Léa Sabourin qui a préparé cette émission et à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Arjuna Andrade, Louis Drillon, Cédric Fuentes et Aliette Ovin, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Emmanuel Morse-Duncan. On se retrouve lundi pour une série consacrée aux sanctions économiques. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.
You are far from me, the more I drift away. I didn't see the warning signs, I was falling through the cracks. Oh.